quatrième mot qui traduit le mot élargi, la définition dans la définition hébraïque du mot élargi, qui est rechav, le mot occupation. Le mot occupation est dans cette définition-là de façon claire aussi. Parce que ce soit l'agrandissement, que ce soit l'augmentation, que ce soit l'expansion, que ce soit être étendu, il faut occuper les espaces après. On se fait de nouveaux espaces, on élargit, mais on occupe. On occupe les lieux conquis, on occupe les lieux acquis. Et on va regarder le mot occupation sous deux volets. On va regarder le mot occupation, c'est la définition simple du Larousse, parce que ça amène des notions qui m'ont semblé importantes de noter. Le Larousse définit le mot occupation par un verbe. Il dit occuper, c'est s'emparer de. Occuper, c'est s'emparer de. Quand on s'empare de quelque chose, ce n'est pas qu'on prend, c'est qu'on prend avec force. Donc, ça nous ramène à l'esprit de conquête. On prend avec force. On prend même quelque part avec la personne qui perd ça n'est pas guéguée, quoi. N'a pas consenti vraiment 100% à prendre, mais il est quelque peu contraint, obligé, fort de le donner. Soit par opportunité, soit parce qu'on était bon négociateur. Moi, je dis encore que quand les gens mettent leur entreprise, je prends cet exemple-là, mettent leurs entreprises à la bourse, c'est qu'ils sont quelque peu soumis aux lois de la bourse. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent être victimes d'une OPA. Ils peuvent être victimes d'une opération comme ça de prise. Quelqu'un peut venir avec plus d'argent et commencer une action en vue de posséder cette entreprise-là. Si la personne qui a cette entreprise ne fait point garde et n'a pas pris des précautions pour être vigilant lui-même, est-ce qu'on va dire que ça peut se faire violemment sans que l'autre personne veuille céder son entreprise? Mais hélas, qui se trouve contraint de céder son entreprise parce que l'autre a utilisé plus de jugeote, peut-être plus d'argent, peut-être plus de stratégie. Il a été plus dans le monde, on va dire, malin. Mais Dieu nous demande à nous d'avoir la sagesse, sa sagesse et son intelligence pour faire les choses selon le royaume. Mais n'empêche qu'au final, pour acquérir des choses qui font mal de leur côté, qui ne sont pas de l'été. C'est l'esprit. C'est pour ça qu'on définit le mot occuper comme s'emparer de. Ça nous fait, ça amène la notion de l'envahissement, le peuplement, l'occupation. Ici, nous le verrons plus tard, faire entrer la notion de l'envahissement et le peuplement. Et c'est un protocole de Père. Quand il nous parle plus tard de ce qu'il va faire, de comment il fait les choses, il nous parle d'envahissement, il nous parle de peuplement. Nous le verrons plus tard. Et c'est un protocole divin dans l'occupation. Pour définir le mot occupation, le Larousse aussi utilise le verbe consacrer à. Ce à quoi on se consacre est une occupation. Nous savons que pour nous, le mot consacrer est un mot sacré. Et c'est vrai, quand nous, dans le royaume, on dit occupe un lieu, nous ne pouvons pas occuper des lieux, occuper des territoires sans les consacrer à qui? À Jésus. Sans les consacrer, sans les couvrir dans le sang de Jésus. Nous, du monde. Si les gens du monde savent comment occuper leurs lieux, à combien de fois nous, les enfants de Dieu. Donc, quand on acquiert, quand on élargit, il y a une dimension d'occupation qui est aussi une notion de consécration. L'occupation des lieux fait référence à l'exploitation effective de cet espace-là. Donc, à la jouissance des fruits qu'il produit. Occuper aussi veut dire cela. Ça veut dire rendre productif ce lieu, c'est-à-dire exploiter ce lieu-là, lui donner vie, lui faire prendre vie, lui faire produire des fruits, pour qu'il puisse produire des fruits. C'est ça aussi avoir l'art d'occupation. Donc ça ne s'arrête pas seulement à être présent là, mais ça s'occupe si c'est une entreprise, nouvelle entreprise, c'est aussi pour l'amener à une notion de rentabilité. Si c'est un ministère qui devient plus grand, plus large, c'est aussi trouver le moyen de lui donner une forme d'émulation, de fonctionnalité véritablement, pour pouvoir multiplier tout cette fois-ci. Multiplier dans le service, dans les actions d'évangélisation, le nombre de cultes, le nombre... Tout cela, ça permet de donner vie, de donner une productivité comme ça à ce que l'on doit occuper, à ce que l'on a élargi. Occuper, c'est planter une bannière. À l'exemple des Américains, quand ils sont allés sur la Lune, la première des choses, ils ont planté le drapeau américain. Et ils ont défini que toute la Lune leur appartenait. Parce qu'ils étaient les premiers à mettre le pied là-bas. Ils occupent comme ça un lieu qui n'a pas de propriétaire. Un lieu qui n'a pas de maître. Ils arrivent, ils en font leur propriété. Ils se définissent comme les maîtres des lieux. Et ils plantent leur bannière. Nous, les enfants de Dieu, quand on occupe, la première des choses spirituellement parlant, c'est qu'un lieu occupé, on doit planter une bannière, la bannière de Christ. Occuper un lieu, c'est ça. Christ doit être vu. Occuper, c'est aussi marquer ces nouvelles délimitations, marquer ces nouvelles frontières. Ceci, ça nous fait appel à la notion, au principe du bornage de terrain. Quand tu acquiers un nouveau terrain, la première chose que même légalement, officiellement, on te demande de faire, c'est de borner le terrain. Tant que le terrain n'est pas borné, tu as toujours peur que l'on peut te le piquer, quelqu'un peut prendre des espaces sur ton terrain. C'est aussi valable, spirituellement parlant. Il faut marquer, faire un marquage, on en a des délimitations de ce que l'on occupe, des élargissements. Et il faut que, même quand on a élargi dans un certain domaine, que l'on redimensionne cela et que l'on prenne conscience des véritables limites qui se sont redessinées. Pour ne pas soi-même prendre le risque de laisser un peu en abandon, en jachère, des espaces qu'on a pourtant gagnés, mais qu'on oublie d'occuper, qu'on oublie de faire valoir. Occuper, c'est remplir les chambres. Occuper, la troisième leçon, c'est remplir les chambres. Remplir les chambres de biens précieux. On parlait de faire valoir, on parlait de fructifier, etc. Occuper, c'est aussi ça, remplir ces chambres-là. Proverbe 24, son verset 3, nous dit quelque chose d'intéressant dans l'ensemble. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Oui, c'est par l'intelligence qu'elle s'affirme. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Donc remplir les chambres ici doit faire appel à la science. Quand on élargit, n'est-ce pas? On doit pour pouvoir remplir les chambres des biens précieux, c'est-à-dire la productivité de la richesse qui doit en être dégagée, doit faire appel aux connaissances, parce que la science et la connaissance, c'est les savoirs acquis, c'est la réflexion que l'on a, c'est l'apprentissage, ce sont les techniques, c'est l'expérience, l'habilité que l'on peut détacher, l'aptitude que l'on peut, toutes les aptitudes, les compétences, les pratiques, les instructions. Là qu'on est dans la science, on n'est pas dans la prière, on n'est pas dans la supplication, on n'est pas dans le jeûne, on est dans la science. Parce que sans la science, il est compliqué de transformer des talents en mines. C'est par la science que ces choses sont faites. Et c'est important de noter ça aussi, pour remplir les chambres, pour occuper. Et le mot et l'occupation fait partie de l'élargissement. Donc, un élargissement commence et s'achève quand ça produit. Alléluia. Donc, si nous avons compris l'ordre que l'Éternel donne à son peuple en cette saison, en cette décade, c'est d'élargir l'espace. Élargissez vos espaces. Nous avons vu c'était quoi les espaces. Ça peut prendre plusieurs formes. Et nous avons vu les quatre niveaux d'élargissement. Et en fonction des uns des autres, surtout, c'est une question de progression. Il y en a qui ont peut-être déjà agrandi, augmenté, et qui se sont étendus, qui sont en train d'occuper. Il y en a peut-être qui commencent, qui sont seulement au niveau de l'agrandissement ou de l'augmentation. Il y en a qui sont peut-être sur l'expansion. Mais c'est des niveaux. Mais l'ensemble, dans tout ce processus-là, suit les mêmes règles. Alléluia. Il faut comprendre les choses de cette façon-là. Qu'on soit dans un stade ou à un autre, une chose est claire. Le processus reste le même. Les motifs, motivations restent les mêmes. Les promesses de paix restent les mêmes pour chacun, pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, élargir l'espace. Dieu veut dire à chacun d'entre vous, sors des sentiers battus. Sors des pensées habituelles. Sors de l'ordinaire. Sors de la routine, du train-train quotidien, là. Cesse de faire des choses par coutume, par habitude. Ce que tu faisais avant, c'était bien. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il est temps de passer à un autre niveau, de passer à autre chose, de passer à une autre vitesse, passer à un autre palier, élargir l'espace. Cette instruction nous parle de vision. Elle nous parle de vision, de la nécessité de regarder et de voir les choses avec les yeux nouveaux. Elle nous parle de la nécessité de regarder et de voir avec des yeux sans écailles, sans voile, de voir avec des yeux de l'Esprit de Dieu. Parce que quand Dieu veut amener quelqu'un à une autre dimension, la première chose que moi j'ai remarqué dans la Bible, regarde et vois. Dieu veut que tu vois comme lui il voit. Quand Jésus a stoppé Paul sur la route de Damas, la première chose, sa lumière l'a aveuglé. Et il a fallu qu'un ananien aille lui enlever les écailles, les yeux. Il a fallu qu'il ôte le voile des yeux d'Abraham en le séparant de Lot pour qu'il puisse voir. Il a fait pareil pour Zacharie. Il dit à Abraham à Genèse 13, 14, Genèse 13, verset 14, non, Genèse 13, pardon, verset 23. Il dit à Abraham, je vais lire le verset. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Regarde. Il le dit à Zacharie aussi, dans Zacharie 5, verset 5. L'ange qui est venu parler à Zacharie, l'ange qui parlait avec moi s'avança, c'est Zacharie qui témoigne, et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Amen. Quand il a voulu ramener Jacob de chez Laban, quand l'Éternel a estimé que le temps de formation de Jacob était arrivé, était achevé de chez Laban, et qu'il lui a dit maintenant, qu'il s'apprêtait à lui dire de sortir, il voulait le bénir chez Laban avant qu'il ne parte de chez Laban, parce que Laban l'avait tellement spolié qu'il risquait de sortir de chez Laban, même plus pauvre qu'il était arrivé. Dans Genèse 31, 12, la parole nous dit, il dit donc à Jacob, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Donc je vais te donner une stratégie pour que tu puisses tirer profit de cela. Alléluia. Dieu veut que nous levons les yeux et que nous voyons. Mon frère, ma soeur, Dieu nous dit en cette saison, vois tes projets comme possibles. L'Éternel a mis des choses en chacun de nous. L'Éternel a un dépôt. L'Éternel a donné à chacun une mission. L'Éternel a rempli. Peut-être tu connais la tienne. Peut-être pas encore. Peut-être tu as déjà commencé la tienne, mon frère, ma soeur. Dieu veut qu'en cette saison, tu passes à un autre stade avec. Dieu veut que tu vois les projets qu'il a mis en toi comme étant des projets possibles. Dieu veut que tu vois ces projets-là grands, que tu les vois au-delà des frontières, que tu les vois au-delà de ton compte en banque, de tes possibilités financières. Dieu veut que tu les vois au-delà de ta propre personne. Dieu veut que tu vois ces projets, Dieu veut que tu vois vraiment tout ce qu'il a mis en toi, tout ce à quoi tu penses, tout ce dont il t'a chargé, que tu les vois au-delà de ta pensée. Dieu veut que tu les vois au-delà des règles des hommes, au-delà des lois des hommes. Dieu veut que tu les vois grands. Regarde-les, pense à ces projets Il t'a déposé quelque chose et il veut que tu lâches ce que tu attends. Et si Dieu nous parle d'audace, Dieu nous parle de zèle, Dieu veut nous dire, lève-toi, viens au devant de la scène. Moi, quand j'ai entendu cela, j'ai médité sur cela. Dieu m'avait déjà chargé de beaucoup de choses, de projets pendant tout mon parcours dans le désert, pendant toute la traversée, pendant tout. Dieu me nourrissait des choses. J'avais déjà préparé des choses. Vous voyez, je regardais ce qu'il me demandait de faire et je disais, ah. Mais de mes propres yeux, je voyais vraiment tout comme encore flou, comme barricadé. Je n'en voyais pas de bout. Quand j'ai reçu ce message et que j'avais déjà commencé à acter, mais dans l'ombre, vraiment dans le secret et tout. Et je reçois ce message comme, il est temps maintenant que les choses se passent à la lumière. Il est temps maintenant que les choses se passent sur le devant de la scène. Lève-toi et viens au devant de la scène. Lève-toi, élargis, prends des initiatives, pose des actions, suscite les réactions des gens, prends des risques, ose avec le Saint-Esprit. Oh, lève-toi, va à la conquête de nouvelles possessions, de nouveaux territoires, de nouvelles fonctions. Lève-toi, mon frère, ma soeur, aie de l'ambition. Si tu travailles quelque part, moi je vois souvent des personnes, même dans nos assemblées, même dans les églises, qui sont assis. On parle de croissance, on parle de promotion, on parle de machin. Mais tu vas leur demander, toi tu ambitionnes quoi? On parle de promotion. Tu travailles dans une entreprise salariale. Quand tu travailles dans une entreprise où tu es salarié, qu'est-ce que tu peux avoir comme attitude d'élargissement dans ce cadre-là? Si ce n'est qu'une promotion, peut-être une augmentation de salaire. On sait très bien que les augmentations de salaire, ça suit une certaine règle et que c'est rare qu'on déroge. Mais une promotion, ambitionnes-tu une promotion? Ambitionnes-tu de changer d'entreprise dans une carrière professionnelle? Toutes ces choses, il faut que ce soit monté en toi, mon frère, ma soeur. Quand il parle d'audace, j'ai envie de dire, le Seigneur veut que tu puisses faire ces choses. Parce qu'en réalité, pourquoi regarder et se poser des questions? Moi, c'est ce que moi je me suis dit en tout cas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais moi je ne suis que le temple. Je ne suis que l'instrument. Si l'Éternel me dit ça, c'est parce que ce temple, oui, qui a été sanctifié par le Christ, doit pouvoir bouger, se mouvoir physiquement pour amener Jésus au lieu de l'isthémie, pour amener Jésus sur les lieux où il doit se manifester. Par la puissance du Saint-Esprit, qui doit transporter l'Esprit en lui, parce que c'est son temple. Dans tous les cas, il y a des choses que l'Éternel te dit, fais juste. L'Esprit de Dieu va prendre le relais. C'est le travail de Dieu. Il va l'accomplir lorsqu'il s'agit de ses missions. Donc ne te soucie pas si ça va marcher ou pas, si ça va être bien vu ou pas, si ça va être bien ou pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que c'est plus son problème que le tien. Et il va opérer lui-même. Par la puissance de son esprit, il va prendre le relais. Parce qu'il s'agit de sa gloire. Il veille sur sa gloire lui-même. Parce qu'il ne la partage avec personne. Il y veille, il est son propre maître d'œuvre. Donc il y a des choses que nous avons à faire. Mais qui ne sont même pas les plus importantes. Car l'esprit de Dieu lui-même est là pour accomplir les choses. Donc quand l'Éternel nous dit, élargis l'espace de ta tente. Il dit, ose le faire avec moi. Aie le zèle de faire cela avec moi. Aie l'audace de te lever de faire cela. Alléluia. J'ai médité à ça, j'ai travaillé. Moi, je me suis dit, mais Saint-Esprit de Dieu, moi, mon rôle, c'est seulement de t'inviter, de t'appeler à moi et de me soumettre à toi. La réussite de ça, l'appréciation de ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Oh, mes frères, ça m'a délivré. Ça m'a permis, ça m'a rechargé, ça m'a permis de dire, mais tout ce que je ressens, tout ce que l'Éternel me dit de faire, je n'ai pas à regarder ça grand, disant, waouh, ce qu'il me dit là, moi je dois ça tellement haut, c'est moi qui vais faire ça. S'il pense qu'il peut faire ça au travers de toi, il va le faire. Amen. Il y a une autre chose que j'ai constatée, c'est que l'instruction de Dieu ne se fait pas à l'aveuglette. Parce que ce que je viens d'expliquer là, ce n'est pas pour dire que bon, c'est tout à fait au hasard. Non. Parce que ce que nous ressentons, ce que nous recevons, c'est lui qui le dépose en nous. C'est lui qui le fait maturer jusqu'à terme. Donc, quand vient le moment où il te dit « élargis l'espace de ta tente », il sait à propos de quoi il veut que tu élargis l'espace de ta tente. Il l'a déjà fait grandir en toi. Il a fait monter ces choses en toi. Déjà indiqué des destinations nouvelles, des œuvres nouvelles, qu'il te fait percevoir comme des nouveaux challenges. Il t'a fait déjà traverser ça. C'est inéluctable. Il ne commence pas comme ça le premier jour, tu ne sais pas, non. Donc quand il commence à te dire, élargis l'espace de ta tente, l'Esprit de Dieu te guide pour voir, tu vois, c'est ce quoi tu travailles, dans tout ce quoi tu crois, ce que j'avais déposé en toi, ce que tu ressentais dessus, va dans ce sens-là. Ce n'est pas à la vraie, ce n'est pas à ta tente. Et plus l'Esprit te presse, plus toi-même, tu discernes le chemin qu'il veut que tu empruntes. Il discerne le chemin qu'il veut que tu prennes. Toi-même, tu discernes ça. Pourquoi? Parce que c'est, comme je disais, des choses qu'il a déjà mis en toi et sur lesquelles tu as déjà travaillé, médité, préparé, prié, mais qui te semblaient encore loin de la réalisation. Donc, quand il arrive et te dit, maintenant, élargis l'espace de ta tente, c'est que lui et son esprit et Jésus, ils sont prêts. Et il te dit, lève-toi, parce que c'est ton corps que nous allons utiliser. C'est tes mains que nous allons utiliser. C'est ta bouche que nous allons utiliser. Lève-toi. Bah, il nous a donné la vie d'animation pour nous lever. Donc on se lève. Saint-Esprit de Dieu, me voici. Agis, utilise. C'est ça que nous mettons en prière tous les jours. Alléluia. Donc la saison d'élargissement correspond au temps de l'enfantement. Je vais répéter ça. La saison d'élargissement correspond au temps de l'enfantement. C'est pour ça que l'Éternel donne cet ordre, qu'il reçoit cet ordre, comme une instruction véritable. C'est que le temps de l'enfantement est arrivé en nous. Quel que soit le stade de l'élargissement dont il s'agit, le temps de l'enfantement est arrivé. Et le temps de l'enfantement vient après le temps de la conception et le temps de la gestation. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça maintenant. Mais il y a un temps pour concevoir les idées de Dieu, le temps pour concevoir les projets de Dieu en soi. Il y a le temps de maturation de ces projets, le temps de gestation de ces projets en soi. C'est ça que j'expliquais tantôt, il y a un instant là. Et vient le temps de l'enfantement. Et à ce moment, tu reçois des instructions qui sont en corrélation. Et l'instruction de l'élargissement est en corrélation avec le temps de l'enfantement. Amen. Ah. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Maintenant que nous avons pris la dimension de l'élargissement des espaces, nous allons essayer de jeter un coup d'œil sur la notion de la tente. Parce que l'instruction, c'est élargir l'espace de ta tente. Nous allons comprendre la dimension, examiner la tente sur tous ses aspects. Parce que je dis encore, en fonction de nos missions, en fonction des rôles que chacun joue avec Dieu, en fonction des appels de chacun, en fonction même de nous-mêmes, l'instruction élargit l'espace de ta tente va s'articuler différemment en fonction du niveau même d'évolution dans la mission avec Dieu. Donc, on a examiné ce que voulait dire élargir, on a examiné ce que veut dire espace. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur le mot tente et on va l'examiner sur toutes les dimensions, pour pouvoir avoir ainsi une analyse complète de l'instruction élargie l'espace de ta tente. Amen. Au jour d'aujourd'hui, dans nos temps aujourd'hui, on sait que la tente, c'est une demeure. La tente, c'est une maison. La tente, c'est un espace, comme on a dit, l'espace de ta tente. La tente, c'est une structure qui délimite un espace. Donc, la tente, c'est la structure qui est bâtie. Donc, on peut définir ça vraiment comme une maison, un immeuble. C'est la forteresse, c'est les parties, c'est les murs, le toit, etc. C'est ça la tente. Et à l'intérieur, il y a un espace. On peut dire la tente, si on prend la ville, parce qu'on a pris la peine tout à l'heure de définir le mot espace. Parce que ce n'est pas l'espace qui définit la tente. L'espace, c'est l'espace. Et on a bien vu que ça voulait dire quelque chose de particulier. Mais la tente, c'est la structure qui va avec. Et c'est très important de faire cette nuance. Mais l'attente aussi, toujours en reprenant cette forme de structure, ça définit le projet, ça définit l'activité, ça définit un ministère, ça définit un service, ça peut définir un cadre de travail. Ça peut être pris sur le plan physique comme sur le plan spirituel, vous avez dit tout à l'heure. Et ça, c'est ça qu'on définit, l'attente. Et l'attente a une fonctionnalité. J'en ai retenu quelques-uns pour qu'on les commente un peu. L'attente est d'abord ton abri. L'attente, c'est ton abri. Ça a été déposé, comme ce que l'on prenne une maison. On bâtit une maison, des murs, on met un toit, une fondation, pour que ça serve d'abri. Quand on finit de bâtir une maison, les gens maintenant entrent dans la maison pour y vivre. Et quand ils sont dans la maison, tout ce qui se passe à l'extérieur, ils ne craignent rien. C'est leur abri. Ils s'abritent du soleil, ils s'abritent de la pluie, ils s'abritent des animaux, ils s'abritent des agressions extérieures. Ça leur apporte protection et sécurité. L'attente, c'est aussi un grenier. Parce que quand on conçoit la pensée de Dieu, l'explication hébraïque du mot tente, c'est ça. C'est tout ce que je vous explique là. C'est un abri, c'est ton grenier. C'est dans un grenier que l'on accumule ses biens. C'est un lieu où l'on conserve ces choses précieuses. C'est une réserve. On parlait tout à l'heure dans l'occupation de remplir les chambres des biens précieux, de remplir ses silos. Ta tente, c'est ton grenier. La tente, c'est aussi ton lieu de repos. C'est le lieu où on s'abandonne. C'est le lieu où on relâche ses forces, ses propres forces. C'est le lieu aussi où on récupère des forces. On se repose des efforts qu'on a faits. Quand on arrive chez soi, logiquement, la tension chute, la tension baisse. On relâche, on souffle. On s'allonge pour dormir paisiblement, logiquement. C'est ton lieu de repos. L'attente, c'est ton lieu d'entreprise. C'est aussi le lieu où tu négocies, tu troques, tu échanges, tu commerces, tu fabriques, tu produis. L'attente, c'est ton lieu de rencontre. C'est le lieu où s'établissent les connexions. C'est le lieu où se tissent vraiment des relations privilégiées. La parole de Dieu nous raconte, je reviens encore sur Abraham, et la parole de Dieu dit, il était assis devant sa tente et il a vu venir à lui les trois anges. Il était assis là où il est rentré en négociation pour Sodome et Gomorre. Il a vu venir à lui les trois anges. C'était une rencontre divine. C'était des connexions établies de Dieu lui-même. Je veux prendre une illustration particulière. Généralement, on rencontre des gens quand on a des connaissances, on a même des partenaires de travail, etc. Bon, en gros, comme ça, quand moi je dis qu'on les invite au restaurant, qu'on finit une réunion d'affaires, ou une réunion, on va au restaurant, on mange, ou bien les Européens, les Français en particulier, disent généralement les bonnes affaires se négocient devant un bon vin. Bon repas dans un restaurant, bon, si on veut. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est parce que, même dans les affaires, il reste impersonnel un peu. Ça reste des affaires. On ne parle pas d'amitié, on ne parle pas de connexion. Parce que lorsque la relation dépasse le seuil de juste un partenariat d'affaires et devient une relation d'amitié, ce n'est plus au restaurant qu'on mange. Ce n'est plus au restaurant qu'on est invité. On est invité à la maison. On est invité à domicile. Parce que quand on fait rentrer quelqu'un dans sa demeure, c'est que l'attachement, le lien est beaucoup plus fort. C'est les invités de marque qu'on invite à la maison. Parce que même le restaurant est impersonnel. Parce que ta tente, ta demeure, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où se scellent des choses qui sont fortes, qui s'appuient sur des sentiments ou des valeurs importantes. J'allais dire des valeurs du royaume. Amen. Ta tente aussi, il faut voir ça comme étant ton lieu de partage. Oui, partage même avec la famille, c'est le lieu où on déverse de l'amour, de l'amitié, on partage, que ce soit le repas, où on partage le sourire, on partage le rire, on partage les peines, on partage les tristesses. Ta tente, c'est ce lieu où les personnes qui y sont des intimes. Et c'est important, l'intimité que tu peux mettre dans ta tente. C'est quand l'Éternel te dit « élargis l'espace de ta tente », ce que tu amènes au dehors, l'activité que tu mets maintenant en face du monde, ce que tu amènes, ce qui est produit là, ce qui est exposé, est un lieu de partage où le déversement de l'amour de Dieu doit être présent parce que tu établis ainsi avec des personnes, des relations qui doivent être fortes. Je ne parle même pas seulement d'un ministère direct, c'est-à-dire spirituel. Je parle même seulement d'un élargissement qui peut avoir l'air d'une mission plutôt, je ne sais pas, humaine, encore que moi, je pense sincèrement que les activités qui sont les œuvres de nos mains ne sont pas moins de Dieu. Parce que c'est par ces œuvres de mains que l'on bénit aussi, que l'on apporte. Et il ne serait pas partenaire des œuvres de tes mains, puisqu'il te dit que le dixième, le dixième de ce que l'œuvre de tes mains rapporte, lui appartient. Ça veut dire qu'il est le premier actionnaire des œuvres de tes mains qui reste en respect des règles de ses règles, des règles de son royaume. Alléluia. Donc, même quand c'est une entreprise que tu dois élargir, il ne faut pas perdre de vue que c'est un lieu de partage, que c'est un lieu de rencontre. Et ces rencontres doivent être des rencontres divines. Ce partage doit être le partager des choses du royaume, des choses saines. Quel que soit le client qui rentre dans ta boutique, peu importe de quel bord il est, toi, tu dois le prendre comme un intime. Parce que c'est ce que Jésus, notre Seigneur, nous dit. Alléluia. Ton prochain. Parce que tu dois lui apporter de cette semence d'amour, de cette semence de paix, de cette semence de joie qui fait partie du royaume de Dieu. Parce que Dieu te dit, gère tes affaires avec mes règles. Pas pour le tromper, pas pour le ruiner. Il doit sortir satisfait de ce qu'il a fait. Et il va sortir content et il va apprécier. Et il aura vu une portion du royaume. Alléluia. C'est un lieu de partage, mes frères et mes sœurs. L'attente dans l'Éternel parle. Quel que soit le domaine. Et la racine, ce mot « tente vient d'un autre mot qui est la racine première, ce mot, qui est « briller ». Élevé pour amener à la lumière. Je vous ai dit que quand on regarde dans la profondeur, ce que veut dire les mots, la traduction de mots en hébreu, on est parfois surpris de l'explication première, de là où le mot vient, de ce à quoi l'Éternel pensait, les choses sont inspirées parce qu'ils l'ont exprimé dans leur langue. Et c'est de ça qu'il voulait parler. Pas du simple mot de tente comme une maison qu'on construit. La racine qui a donné lieu à ce mot de tente, c'est un mot dont la signification première, c'est brillant, rendre brillant, élever à la lumière. Oh my God, Seigneur. Cela me donne deux notions. Cela fait de tout ce que nous avons dit là. Moi, je retiens une chose. L'élargissement de l'espace de la tente s'accompagne de deux perspectives, de deux privilèges majeurs. La première perspective, c'est le mot qu'on vient de voir. Ça veut dire que tu élargis l'espace de ta tente, ça s'accompagne de la perspective d'une élévation et de la brillance. Tu élargis l'espace de ta tente pour entrer dans l'élévation et la brillance en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et c'est une promesse de Dieu. La deuxième perspective, c'est la perspective du Rehoboth. La perspective de la mise au large, être mis au large. La perspective de la grâce d'Isaac. Parce que ce mot-là, je vais vous lire, dans Genèse 26, 22, vous connaissez l'histoire d'Isaac. Lorsque, à un moment donné, il y a eu la famine au Canaan, et il a voulu descendre en Égypte, comme l'avait fait son père. Mais l'Éternel lui a dit, garde-toi de descendre en Égypte. Moi, je te bénirai ici. Même si la sécheresse est, la famine est, toi, toi, je te garde. Isaac est resté. L'histoire d'Isaac est longue. Il a travaillé, il a trouvé des puits, il a creusé des puits. À chaque fois, on lui prenait le puits, il a creusé un autre puits, on prend le puits. Tout le travail qu'il faisait, on ne faisait que récupérer le puits. 12 puits jusqu'au 12e puits. Écoutez ce que la parole dit. Genèse 26, 22. Il se transporta de là. Isaac se transporta de là. Parce que verset 21 dit qu'il avait creusé un énième puits qu'on venait encore de prendre. Il s'est encore chamaillé avec les fils de je ne sais pas qui. Et on lui a encore pris ce puits. Isaac s'est transporté de là. Ça veut dire que Isaac a fait une expansion. Il est sorti de cette zone délimitée. Il n'a pas fait un agrandissement. Parce que ce qu'il faisait depuis le début, et là, il saute, il va. Il restait dans le même coin. La parole nous dit, il se transporta de là. Ça veut dire qu'il a fait une expansion. Il est allé au-delà des frontières du lieu où il était d'abord. Il est allé ailleurs. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et le mot mis au large, c'est le rachab. Le même mot pour élargir l'espace de ta tente. Alléluia. Le même mot. Et il conclut en disant, et nous prospérerons dans le pays. Gloire à Dieu. Alléluia. La perspective du Rehoboth. Dieu dit, quitte ce que tu faisais avant. Élargis l'espace de ta tente. Et ça ouvre sur le Rehoboth. Gloire à Dieu. Que cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Oui, Père. Dans Deutéronome 33, 20 aussi, c'est toujours la notion du Rehoboth. Et il s'agit là de Jacob qui bénit les 12, qui bénit les enfants. Et il arrive à la bénédiction de Gad. Il dit ceci. Sur Gad, dit-il, béni soit celui qui met Gad au large. C'est le même mot, Rechab. Béni soit celui qui met Gad au large. Point d'exclamation. Et il explique en quoi va consister la mise au large de Gad. Il dit, Gad repose comme une lionne. Alléluia. Oh. Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Le repos d'une lionne, c'est-à-dire tu as déjà acquis la proie. Le temps même de chasse est passé. Tu as la proie, tu l'as menée dans ta tanière, tu as déposé, tu es maintenant en train de déchirer pour nourrir tes petits, pour résoudre tes problèmes-là. Et l'Éternel dit, il a mis Gad au large. Et c'est ce que l'Éternel nous dit. Élargis l'espace de ta tente afin que je puisse te mettre au large. Alléluia. Pour que tu sois élevé, que tu brilles. Pour que ma mission en toi soit élevée et brille. Pour que mon royaume soit élevé et brille. Alléluia. Oui. Oui. L'élargissement de la tente ouvre sur la prospérité à tous égards. Ouvre sur le repos. Le repos en Christ. Le repos pour œuvrer. Il ouvre sur la manifestation de la présence de la gloire de Dieu. Il ouvre sur la paix, sur l'entente, sur l'alliance. Parce que quand on lit Genèse, on a lu à 26-22 la mise au large de Isaac. Quand on continue de lire les versets de 23 à 31 à la suite de Genèse, on se rend compte que sa mise au large a eu des effets. Et l'effet majeur, c'était que le roi est venu à lui pour faire allégeance, est venu à lui pour demander alliance, pour établir la paix, pour faire une entente avec lui, à cause de son Dieu. Alléluia! Et la parole dit au 31, que et quand ils aient fini, il s'en alla, allié à Isaac. Les alliances, les connexions qui vont s'établir. Alléluia! Éternel Dieu de gloire. C'est merveilleux. Esprit de Dieu, merci. Merci parce que quand tu nous enseignes, tu nous remplis de confiance. Tu nous éclaires le chemin sur lequel tu nous amènes à marcher. Nous avançons avec confiance, avec pleine assurance, au Père éternel. Merci. Le Seigneur te dit, élargis l'espace de ta tente. C'est un ordre, une instruction divine ferme. N'attends pas l'autorisation de personne d'autre, car l'ordre du Seigneur, l'ordre de notre Père, l'ordre de Dieu pour toi est déjà libéré. Saisis-toi de ça et s'adresse impérativement à toi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne te pose pas de questions. Ne cherche pas l'approbation ou la permission de telle ou telle personne, de tel groupe ou telle voix. Non. Si tu as saisi cette instruction comme étant la tienne, obéis. Fonce, assurément, ce qui monte en toi, l'Éternel veut que tu élargisses l'espace de ta tente, que tu l'accomplisses, que tu le fasses. Alléluia. Obéis au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Ne crains rien. J'ai travaillé ce message pendant plusieurs mois. Vers la fin de l'année, ou pendant que j'étais encore en train de ficeler, tous ces projets étaient en moi, etc. Je me posais la question, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est maintenant? Que va penser? Qu'est-ce qu'on va dire tel? Je vais encore attendre un peu de ceci et un peu de cela. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oui, Père. Oh Dieu, merci Papa de ce qu'il t'a plu faire, de me faire trouver grâce à tes yeux et de me faire rentrer dans la saison de l'élargissement. Merci de ce que tu me prépares à l'enfantement, Papa, de ce que tu as déposé en moi, pour ton œuvre, pour le royaume, pour moi-même, pour les miens. Merci, Papa. Merci pour l'héritage du royaume. Merci pour Albarod. Merci pour Binebel. Merci pour Publiare. Merci pour Mouvement Ezra. Merci pour Performance. Merci pour ma communion avec toi. Merci pour le passage, Seigneur du Père Tout-Puissant, que tu as fait de moi. Merci pour tout. Merci pour ta main sur ma vie. Merci pour ton attirant, Seigneur du Père Tout-Puissant, de moi. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour son œuvre en moi, mon ami. Merci. Merci au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié, au Père. Que toute la gloire te revienne. Digne, digne, Seigneur. Tu es le Mighty God. Oui, Père. Tu es le Mighty God. Et bien-aimé, j'espère que ce message vous a parlé autant qu'à moi. Que nous saisissons cette instruction divine. Que nous la méditons. Que nous la mettons en application dans nos vies. Soyez bénis. Demeurez bénis. Que la grâce de Père soit sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom.